Vivre FM podcast.
De 10h à 11h, la santé mentale en question, Anne Voileau.
Christine Derouin, écrivain, metteur en scène, animatrice d'ateliers sur différentes thématiques. Christine vient nous parler de ses derniers ouvrages parus dans la collection Pas de panique, c'est la vie aux éditions Oscar. Des titres qui parlent d'eux-mêmes. Mon frère n'est plus connecté dans sa tête, ça parle de la schizophrénie. Mon frère a une tornade dans la tête, de l'hyperactivité. Mon père fait des montagnes russes dans sa tête, la bipolarité. Des outils indispensables pour le dialogue entre les jeunes, leurs parents et les médecins. Des thèmes passionnants, alors surtout, restez avec nous sur Vivre FM. Christine Derouin, bonjour. Je vous reçois pour des merveilleux bouquins que vous avez écrits dans la collection Pas de panique, c'est la vie. Déjà, ça commence bien. Hein. Alors, il y a différents livres. Là, je vois Mon père fait des montagnes russes dans sa tête. Alors, c'est sur la bipolarité. Il y a sur la schizophrénie. Il y a sur l'hyperactivité. Puis après, vous nous annoncerez les prochains titres. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ces livres ?
Déjà bonjour, ce qui m'a donné l'idée, c'est que ça fait maintenant une petite vingtaine d'années que j'interviens en psychiatrie auprès de patients qui souffrent de ces maladies ou de personnes qui ont des troubles du comportement. Et j'avais l'impression que dans les réunions famille, dans les réunions d'information aussi, il n'y avait pas beaucoup les ados et bien sûr encore moins les enfants. Et j'avais envie de m'adresser à eux parce que pour eux, je pense, quand un frère, une sœur, un père, une mère entre dans une maladie psychique ou dans un trouble du comportement, c'est juste déstabilisant et ils ne trouvent pas forcément les outils pour s'apaiser.
Oui, puis peut-être qu'ils n'osent pas non plus demander.
Ils n'osent pas demander. Il y a un grand phénomène de honte, notamment par rapport à la schizophrénie ou même là par rapport à la bipolarité pour la jeune fille et son père. Et du coup, ils ne savent pas trop à qui s'adresser.
Oui, puis à qui demander.
Voilà, les infirmières scolaires, il n'y en a pas forcément beaucoup.
Elles
sont pas forcément formées. C'est pas évident. Aller voir un psy, c'est toute une démarche. Ça veut dire qu'on passe par les parents aussi, puisqu'ils sont mineurs. Bon, il y a tout ça qui fait que, en passant par le roman, la fiction, on peut s'adresser, on peut plus entrer dans leur monde.
Oui, puis on voit mal un adolescent demander à ses parents si son père ou sa mère ou ses frères et sœurs ont un problème, d'aller voir un psy pour demander des conseils. C'est impossible.
Voilà, généralement les parents sont déjà submergés par les problèmes du frère ou de la sœur, donc il est un peu laissé pour compte le proche qui subit cette maladie lui aussi, et il est la dernière roue du carrosse pour aller voir le psy.
Quoi. Donc, et alors vous dites que vous êtes intervenu auprès d'un public avec relevant de la santé mentale, je peux dire. Mm-hmm. Dans quel cadre?
Alors moi j'ai deux casquettes, je suis écrivain et je suis metteur en scène de théâtre et je suis intervenue en atelier d'écriture, en atelier théâtre, en atelier expression corporelle également et j'interviens encore d'ailleurs en atelier écriture et en atelier théâtre. Je suis ce qu'on appelle un artiste dans la structure ou un artiste dans l'hôpital grâce à l'Agence régionale de santé, la Direction régionale des affaires culturelles.
Oui, c'est bien ça. Alors, comment on peut... Là, demain, j'ai envie que vous veniez faire un atelier d'écriture. Je vous joins comment et comment ça se passe?
Vous me joignez par téléphone, on discute sérieusement.
Oui.
Et vous appelez mon éditeur aussi éventuellement. Et puis, après, le contenu de l'atelier est fait en fonction des personnes, quelles que soient les personnes, d'ailleurs, que ce soit des personnes malades ou des personnes pas malades du tout. On se met en accord avec ces personnes pour le contenu de l'atelier et après, vogue la galère.
Oui, ça se discute plus avec les personnes qui vont participer aux ateliers qu'avec la personne qui vous embauche quand même.
Oui, ce que je discute avec la personne qui m'embauche, c'est le salaire. Mais le contenu...
Je croyais que c'était gratuit.
Voyons, il paraît même que c'est un métier.
Il paraît même que vous payez pour venir.
Non, c'est un métier. Et donc oui, le contenu s'ébauche avec les personnes. Ça peut être un suivi personnel, chacun écrivant son texte. Ça peut être un suivi collectif, avec un texte collectif sous forme de grandes nouvelles ou de courts romans. Ça peut être du théâtre ou ça peut être plein de choses.
Oui, d'ailleurs, on s'est rencontrés dans une vie antérieure.
Dans une vie antérieure.
À la revue Être, où vous aviez un atelier d'écriture.
Voilà.
Et vous avez fait tout ça.
Oui, j'ai fait tout ça.
Oui, voilà. Absolument.
Oui, on avait écrit un roman qu'on avait après découpé en épisodes et on l'avait enregistré ici à Vivre FM.
Voilà, pour faire commencer ça.
Ah, c'était super sympa.
C'était bien.
Ouais, c'était vraiment sympa. Ça.
Et alors, qu'est-ce qui se découvre justement ? On va parler après des livres, mais dans les ateliers, comment il y a une osmose d'ailleurs. Les gens travaillent ensemble, même si vous faites des choses. Chacun écrit son texte. C'est quand même un travail de groupe. Et qu'est-ce qui se dégage après, petit à petit, d'un groupe comme ça dans un atelier d'écriture, par exemple ? Parce que théâtre, ça doit être encore différent.
Théâtre, c'est différent. Atelier d'écriture, c'est tout d'un coup la découverte pour la personne qui écrit. J'insiste encore une fois, un malade ou pas malade, moi je m'adresse
à
la patiente,
au
patient.
Heureusement.
Qu'elle peut le faire. Qu'elle peut le faire, notamment sur les textes longs. Souvent les gens se disent, donc moi j'écris 10 minutes et puis après j'ai plus d'imagination, je suis pas quelqu'un qui a de l'imagination. Et tout ça. Et elles se rendent compte que bah oui, on peut continuer, comment dérouler le fil, quel fil trouver dans la pelote. Et donc ça a un effet de, sur tout un chacun, de revalorisation.
Oui, de reprise de confiance quand même, quand on arrive à s'écrire quelque chose, on est fier.
Et puis aussi de comment on peut travailler sur soi-même tout en l'offrant à un autre, c'est-à-dire un personnage dans le texte, par exemple. Comment on peut se cacher derrière un personnage, comment on peut utiliser ses propres expériences pour les offrir à un personnage et les offrir après à un lecteur.
Oui, c'est très passionnant tout ça, c'est vrai.
Ouais, c'est pas mal.
Alors est-ce que vous avez découvert, vous, dans les ateliers d'écriture, des gens qui écrivaient vraiment très bien ?
Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, dans des lieux des fois insolites, hein, puisque là en ce moment je travaille en UMD, en unité pour malades difficiles, et ça m'est arrivé d'avoir deux patients.
Oui, qu'est-ce qu'on appelle un malade difficile ?
C'est un malade qui est passé à l'acte, donc qui est en fait dans un lieu d'enfermement. Il n'est pas en prison, il est considéré comme irresponsable.
Non, je pensais que c'est un malade qui ne voulait pas se soigner, mais bon. Non, ça pourrait être ça aussi. Mais...
Ça pourrait être ça aussi, mais bon, non.
Oui.
Malade difficile.
Oui.
Non, c'est des patients qui sont vraiment très malades et qui ont à un moment ou à un autre décompensé et qui sont passés à l'acte de façon dramatique souvent, quoi. Et là, ça m'est arrivé, oui, de rencontrer des gens qui écrivaient très bien.
Et qui avaient beaucoup de choses à dire, sûrement, sans le savoir.
Oui, ou en le sachant.
Ou en le sachant, mais ne sachant pas l'écrire, peut-être.
Oui, voilà, ou n'ayant pas eu l'occasion.
Oui,
n'ayant pas eu l'occasion, c'est ça aussi, la vie donne l'occasion ou pas de le prendre, le stylo. Hein.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais enfin, quand on n'a pas confiance en soi, on ne va peut-être pas le faire non plus.
Non, de toute façon, on ne va rien prendre quand on n'a pas confiance en soi.
C'est
donc,
vrai.
Voilà.
Ah, mais
donc,
c'est un métier passionnant.
Oui, tout à fait.
Alors, vous êtes écrivain d'abord. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de, en fait, vous retransmettez quelque chose que vous aimez à travers ces ateliers ?
Alors oui,
parce que il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent, mais qui font pas forcément d'ateliers.
Tout à fait. Alors moi, je suis un écrivain qui aime bien aller vers les autres. L'écriture, c'est un métier solitaire. C'est un métier des fois difficile justement à cause de la solitude. Et j'aime bien aller vers les autres, que ce soit pour les regarder vivre, pour regarder comment va le monde, ou que ce soit pour échanger avec eux et oui, c'est plutôt ça, c'est plutôt regarder ou écouter qui sont les autres. J'ai un côté vampire, je me nourris des autres.
Tous les écrivains, ça.
Voilà. Donc, mais moi, j'aime bien Dracula, donc ça me gêne pas. Ouais. Donc, j'ai un côté vampire comme ça. Et donc, les ateliers d'écriture me nourrissent tout autant que ça peut nourrir les personnes qui y participent. Et d'ailleurs, ces trois livres sont le fruit de mes diverses rencontres
ouais.
Voilà, au niveau des patients ou des personnes ou de l'écoute, beaucoup de l'écoute.
Oui.
Écouter les gens quand ils ont envie de parler.
C'est vrai, vous le faites d'abord écrire et après vous avez les moyens de les faire parler.
Voilà, j'ai les moyens de les faire parler.
Et vous avez, qu'est-ce que vous avez écrit avant ? Je suis curieuse, c'est mes auditeurs ne vous connaissant pas.
Alors j'ai écrit 5 ou 6, je sais jamais, romans pour adultes. Dont l'un a eu un prix, d'ailleurs, en Italie, le prix Muras, qui m'a permis d'aller à Bari, dans les Pouilles, c'était génial. Et puis...
Et c'est un prix, en plus, il faut le dire, je me souviens, qui est donné par les lecteurs.
Oui, voilà, c'est un
c'est
prix qui est donné
ça.
par les élèves,
oui,
élèves
ça.
Scolaires et étudiants qui apprennent la langue française. Mmh. Voilà. Et puis une dizaine de livres pour ados et des pièces de théâtre. Je le dis jamais parce que j'ai un peu tendance à oublier. Et des pièces de théâtre. Voilà, j'écris... j'écris selon, j'utilise la forme qui correspond à ce que j'ai envie de faire ou envie de dire.
Oui, à un instant T.
Un instant T, voilà. Donc l'adolescence me semble une période intéressante parce que c'est la période du tout est possible et rien n'est possible à la fois. Et donc, du coup, ça me semble intéressant de m'adresser à cette tranche d'âge, comme on dit.
Oui, c'est vrai. Bah, oui, c'est ce que vous avez fait, très bien. Alors, est-ce que comment ça a été reçu? On va faire peut-être une pause musicale et puis on va se voir après plus longuement pour savoir comment ça a été reçu, ces livres, et comment vous les avez écrits. À tout de suite.
À tout de suite.
De 10h à 11h, la santé mentale en question avec Anne Voileau.
Dessin intégral avec Christine Derouin et sur une petite collection qui s'appelle Pas de panique, c'est la vie. Faut pas oublier de dire, on parlera tout à l'heure de l'éditeur, hein, Oscar, parce que vous travaillez depuis longtemps avec lui, puis on verra tout ce qu'il fait. Et alors, il y a 3 livres pour l'instant, bientôt un 4e. Alors là, j'ai sous les yeux, Mon père fait des montagnes russes dans sa tête, et vous parlez de la bipolarité. Alors celui-là, il est né comment? Parce que chacun, je pense, a une petite histoire.
Alors déjà, celui-là, il est écrit à 2 voix, puisque Angélique Excoffier l'a écrit avec moi. Et Angélique est une psychologue clinicienne, et donc qui a vécu la bipolarité chez son père. Et on l'a écrit sous forme de mail. Moi, je suis une jeune tante plutôt guirette, et elle est pile au moment où son père entre dans sa première phase maniaque détectée. Et donc, on échange des mails. Et comme ça nous permet aussi, la tante étant un peu plus âgée, ça permet de travailler aussi sur les, je dirais pas la génétique de la maladie, mais le retour sur la famille par rapport à cette maladie.
Oui, cherchant, qu'elle peut lui raconter un peu l'histoire,
voilà,
de la famille.
Oui. Et c'est souvent chez les bipolaires qu'il y a des signes précurseurs chez les parents, grands-parents et même des fois plus loin. Donc voilà, on l'a écrit à deux. C'était très, je vais dire amusant. Donc ça paraît un peu curieux de trouver amusant l'écriture sur la bipolarité.
Oui, bah non, parce que les bipolaires n'engendrent pas la mélancolie.
Non, pas du tout.
Ce qu'on pense.
Ouais, ce sont des gens très très
avec
très
une
étonnants.
Lucidité, très, oui, tout à fait.
Ouais, très étonnant. Donc voilà, donc on l'a écrit à deux. Et ça nous tenait à cœur toutes les deux de le faire ensemble d'une part, et ça nous tenait à cœur toutes les deux de le faire, elle parce qu'elle travaille beaucoup sur la bipolarité, elle anime des groupes de parole, elle fait des rencontres avec les familles, et d'ailleurs avec ce docteur Guichard, qui est le docteur, le psychiatre, qui a écrit le texte qui suit la fiction. Puisque chacun des livres, voilà.
Chacun des livres a une interview, c'est pas une preuve, c'est une interview d'un docteur différent, enfin pour chaque...
Voilà. Qui parle
domaine,
de la maladie
domaine,
aux adolescents en utilisant, on a été un peu vigilant là-dessus, un vocabulaire qui puisse être compris par les adolescents et qui puisse leur exprimer des choses, quoi, qui puisse aller jusqu'à eux.
Un peu dans leur monde.
Voilà. Ouais,
aussi, je vous rassure, je suis malheureusement plus adolescente, ça se comprend très bien.
On a toujours un petit coin d'adolescence quelque part.
Oui, il faut. Et alors, est-ce que vous avez eu un peu des retours par rapport à celui-ci, par exemple?
Alors, celui-ci, oui. Celui-ci, on a été énormément soutenus et accueillis par les associations qui travaillent avec des personnes bipolaires. Argos 2001, Club House, Bicycle, qui ont tout de suite réagi positivement à ce livre. Et donc, oui, il a beaucoup circulé sur Facebook grâce à ces associations.
Et c'est très important pour les adolescents.
Et c'est très important pour les adolescents. Il y a France Dépression aussi qui l'a soutenu. Donc oui, et visiblement, ça a touché, parce que sur Facebook, on voit les messages que les gens envoient. Il y a tout de suite un intérêt réel.
Et je suis sûre que c'est pas seulement les adolescents qui ont réagi.
Non, il y a les bipolaires.
Oui, les bipolaires eux-mêmes,
ils sont un petit peu,
concernés.
Concernés, et les familles, familles. Et chez Bicycle, qui travaille beaucoup sur les enfants, ce qui les a intéressés, c'est que le psychiatre parle de la bipolarité possible dans l'enfance, alors que très peu, finalement, de psychiatres travaillent sur ce thème de la bipolarité de l'enfant.
Oui, parce que
l'enfant.
C'est pas évident du tout.
C'est pas évident du tout, non. Donc, eux, ils ont été d'autant plus enthousiastes et touchés, quoi.
Alors, qui travaillons beaucoup dans ce domaine-là, il faut quand même... Il y a un grand message d'espoir aussi, c'est qu'on connaît des tas de bipolaires qui vivent leur vie, qui travaillent.
Oui. Bien sûr.
Faut quand même le dire, parce que j'imagine une adolescente qu'un frère ou des parents qui lisent. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir de l'espoir.
Il y a beaucoup de bipolaires qui travaillent, il y a beaucoup de bipolaires qui sont heureux.
De plus en plus, d'ailleurs.
De plus en plus. La maladie est de plus en plus prise en charge, reconnue.
Je dirais bien prise en charge.
Voilà. Oui, oui, parce qu'elle a été longtemps abandonnée et considérée comme une dépression presque. Hein.
Enfin, il y a pendant longtemps, moi, je suis plus âgée que vous, alors c'est comme la tante dans le livre. C'est vrai que pendant un moment, on écrêtait complètement les gens, c'est-à-dire qu'on les mettait linéaires. Il y avait plus de dépression, mais il y avait plus de joie non plus. Donc ça a beaucoup changé depuis un moment. On s'aperçoit qu'on peut monter descendre, mais pas trop. Et bon, ça a vraiment beaucoup évolué. J'ai vu en 10 ans, c'est énorme.
Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des bipolaires et ça en théâtre notamment, et ça a été toujours des moments agréables, pas forcément faciles, hein, parce que les phases maniaques quand on est avec un groupe ne sont pas forcément
surtout
faciles
dans le théâtre
à gérer. Voilà, dans le théâtre, où est la limite?
Si la première phase, ça doit être bien.
Oui, voilà, mais la deuxième elle est rude. Et donc mais c'est toujours intéressant parce que c'est des gens qui ont aussi une grande imagination souvent.
Ah bah oui.
Et une grande richesse, une grande sensibilité. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est un trouble du comportement qui permet de vivre, et tant mieux, tant mieux, tant mieux, quoi.
Et de vivre, je dirais bien.
Et de vivre bien, oui, oui, tout à fait.
Parce que, c'est important de le signaler.
Oui. Il faut voir aussi le nombre d'artistes qui sont bipolaires. Ah oui. On en cite quelques-uns à la fin du livre. Il y a des gens qui ont fait des grandes choses, artistes ou hommes politiques, Churchill par exemple, et qui étaient complètement bipolaires.
Oui, et il y en a des tas aussi qui ne se déclarent pas, qui ne sont pas déclarés, qui le sont aussi.
Oui, oui.
Oui, alors, j'en ai un deuxième. Hein. Mon frère a une tornade dans la tête. Il est hyperactif, l'hyperactivité. Alors ça, c'est encore un autre problème qui est très difficile, je pense, à détecter quand même, celui-ci.
Oui, celui-là, il est plus difficile.
Parce qu'il y a des gens qui sont hyperactifs et qui vivent très bien. Mm-hmm. Et puis il y en a d'autres qui le vivent moins bien.
Oui, voilà. Surtout dans l'enfance, là, ça s'adresse vraiment à un petit. Et le personnage est un petit garçon.
Oui,
hein,
oui.
Il est en début de collège. Et c'est vrai que c'est difficile parce que, alors, il y a un phénomène de mode aussi qui fait que dès qu'un enfant est un peu agité, on se dit tiens, il est hyperactif.
Voilà. C'est un peu trop. Oui.
Alors que pas
alors
forcément.
Qu'un enfant en bonne santé et peut être un garçon, peut être très hyperactif sans avoir une pathologie.
Voilà. Et puis, on peut aussi être dans une hyperactivité qui n'est pas forcément de grimper au mur et de sauter du plafond, mais qui est une grande souffrance intérieure et qui n'est pas décelable forcément, quoi. Et puis, c'est le problème se pose du traitement. Est-ce qu'on doit forcément mettre les enfants sous médicaments, pas les mettre sous médicaments? Est-ce que la difficulté quand même de mettre un enfant jeune sous médicament, la question est importante. Et donc, ça a été plus difficile et plus subtil à traiter.
Alors, vous en aviez rencontré aussi
Oui, j'ai fait
peut-être
des...
Peut-être moins, non, quand même, oui.
Moins, mais j'ai fait des interventions en milieu scolaire, en primaire et en collège, oui. Et c'est souvent des enfants, là j'ai le souvenir d'un parce que je l'ai rencontré cette année, des enfants malheureux, puissamment malheureux. Et en fait, ou qui font craquer l'instit parce qu'il y a un moment où elle n'en peut plus, où il n'en peut plus. Donc ils sont dans le rejet, qui sont rejetés par leurs petits camarades aussi parce que dans la cour ils sont juste insupportables dans les jeux. Et on retrouve des gamins très solitaires et très, très malheureux, quoi.
Et qui font un peu tout pour être rejetés, pour dire je suis rejeté.
Voilà.
Inconsciemment,
ça...
inconsciemment.
Oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre.
Mais alors là, c'est autre chose. Ça,
oui.
C'est plus de l'ordre du psychologique. Enfin, ça relève plus du psychiatre. Là. Enfin,
Oui, oui, oui. Et surtout, là, dans celui-là aussi, comme l'enfant est jeune, je voulais travailler sur la fratrie et le fait que la fratrie, du coup, est complètement laissée pour compte, puisque toi, tu vas bien, on va pas s'occuper de toi, on n'a pas le temps parce qu'il y a l'autre.
Mais ça, c'est presque toujours dans le
handicap. Voilà, c'est toujours, toujours dans le handicap. Mais là, la fratrie, par exemple, comme ça se passe beaucoup au collège, ils sont dans le même collège, le frère est aussi rejeté par « Ah, t'es le frère d'eux ?» Non, mais alors non, je veux pas...
Oui, des fois que tu fasses pareil, ouais.
Non, c'est pas possible, voilà. Donc, et puis aussi, ça m'amusait aussi de travailler sur l'image, parce que c'est un garçon de l'homme, c'est-à-dire que le petit garçon hyperactif, il grimpe aux arbres, moi, je le compare à un homme préhistorique, parce que... Ça me semble, je me dis qu'à la préhistoire, ça devait être
hyperactif.
Mais et donc du coup, le père a tendance à dire oui, mais c'est normal, c'est un garçon. Voilà. Et l'autre, qui est plus doux, qui aime le dessin et tout, bon, il est moins valorisé dans sa future virilité.
Absolument. Oui.
Et ça peut arriver aussi. Ça, j'ai déjà vu ça aussi. J'avais
tout
pas
à fait,
perçu
oui.
dans une famille, mais en fait, c'était ça. C'est normal, c'est un futur homme, c'est un homme, voilà quoi.
Ouais.
Et juste, il est insupportable et personne, et tout le monde a envie de l'accrocher au mur, mais c'est pas grave, c'est un homme. Et donc ça empêche évidemment aussi l'approche d'une douleur qui est une souffrance, qui est la souffrance de ce petit garçon, quoi.
Oui, puis alors il y a aussi, quand on va un peu plus après l'adolescence, il y a aussi aussi. Moi, j'ai travaillé avec une personne qui était hyperactive, mais elle était bien et elle ne fonctionnait que dans l'hyperactivité. Mmh. Et elle était mal quand elle s'arrêtait. Mmh. Et on se disait toujours, il va s'écrouler. Eh ben non.
Non. Bon, c'est pas écroulé.
C'est pas écroulé. Ouais. Jamais. Ouais. Alors oui, ça, c'est autre chose. Je pense que c'est une façon de fonctionner, peut-être.
Oui, oui, peut-être.
Alors, c'est difficile quand même à l'adolescence, même pour un médecin, de savoir dans quel cas mettre les hyperactifs.
Je pense qu'aussi, ce qui est plus troublant encore que l'hyperactivité, c'est le trouble de l'attention, c'est-à-dire cette incapacité à se concentrer un temps long. Et voilà. Quand on est à l'école, ou quand on est au collège, ou quand on est au lycée, on nous demande de tout le temps être dans la concentration. Or, un TDAH, c'est un trouble de l'attention, et l'enfant qui ne peut pas se concentrer, il peut perdre pied très, très, très rapidement, quoi.
Mais c'est ça, c'est par rapport à l'école, c'est encore, c'est encore un autre sujet, parce que c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'on est dans une société, on est obligé de se conformer.
Oui, voilà. On est obligé de rentrer dans un cadre hyperactif. Voilà. De toute façon, aucun de ces personnages ne rentre dans le cadre, justement.
C'est peut-être ce qu'on aime, quelque part.
Ça doit ce qu'on s'en doit aimer chez eux,
Et puis, alors, il y en a un troisième. Mon frère n'est plus connecté dans sa tête. Alors, la schizophrénie. Alors là, bon, vous avez fait beaucoup de... Vous avez rencontré quand même beaucoup dans le...
Moi, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup avec des schizophrènes. J'ai rencontré des jeunes schizophrènes qui étaient vraiment au moment où ils entraient en schizophrénie, où les psys ou la famille hésitaient encore entre la dépression et la schizophrénie, au moment où ils entendaient leur première voix, donc la déstabilisation de ce moment-là. Et c'est juste dramatique. Je pense que c'est celui qui est le plus proche de la maladie psy, bien sûr, parce que la schizophrénie, on est en plein dedans, et qui est peut-être le plus utile aux adolescents pour connaître cette maladie, parce qu'elle a été terriblement stigmatisée. Oui. Un schizophrène, c'est dangereux. Un schizophrène, ceci. Un schizophrène, cela.
Alors, et, ça peut l'être, mais c'est une minorité.
Ça peut l'être, mais c'est une très petite minorité. Donc, je pense que pour les ados, c'est important de savoir qu'un schizophrène, ça peut être c'est une personne aussi, et ça peut être quelqu'un avec qui on a toutes sortes de conversations, d'approches possibles, quoi. Donc celui-là, ça a été le premier que j'ai écrit. En fait, c'est quand j'ai eu l'idée, j'ai pas hésité une seconde, j'ai pensé à la schizophrénie, forte de mes expériences, c'est sûr, mais si forte aussi d'un message à
donner. Puis c'est vrai que ce sont des personnes extrêmement attachantes aussi, parce qu'il y a de l'intelligence, pour dire ce qu'il y a souvent, la plupart du temps. Et c'est vrai qu'on, en même temps, il y a une grande sagesse, et puis quand les gens dérivent, mais c'est un mélange des deux qui est quand même très fascinant.
Oui, c'est très fascinant. Ce sont des gens qui tapent juste, je trouve, combien de fois m'est arrivé.
Grande sagesse,
qu'un schizophrène me dit, mais pourquoi ça? Et la question était juste celle qu'il fallait poser, ou qu'il fallait pas poser d'ailleurs. Mais il la posait, parce qu'il n'y a pas d'inhibition pour la poser. Mais en tout cas, il tapait juste. Et puis, c'est des gens qui ont une grande naïveté en même temps, notamment par rapport à l'écriture. Et il y a des fois des textes qui sont d'une grande naïveté par rapport au monde et qui, du coup, révèlent la fragilité aussi de la personne, quoi.
Oui, ça, j'avais pas vu ce côté-là, oui.
La possibilité d'être très vite atteint par le monde et par la rudesse du monde, quoi.
Parce que vous pensez que c'est une naïveté dans le bon sens, en fait, en pensant que le monde est bon, ou comment elle se présente, cette naïveté?
Je sais pas, le monde est bon. Je sais pas si c'est le monde est bon, mais en tout cas, je ne m'attendais pas à ce qu'on me fasse ça, ou je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise ça. Ça m'est arrivé souvent de voir des schizophrènes blessés.
Ah oui, donc c'est intéressant. Alors, c'est votre premier livre, vous êtes lancé sur celui-là, et ça vous a donné, en fait, ça vous a donné envie de faire les autres.
Voilà, alors celui-là, j'ai pas donné le nom des psychiatres pour l'hyperactivité et pour la schizophrénie.
C'est celui-ci, oui.
Voilà, là, il a été écrit, le texte du psychiatre a été écrit par Guy Benamozic. Sur l'hyperactivité, c'est Gabriel Val. En fait, j'ai aussi fait en fonction des psychiatres avec lesquels j'avais envie de travailler en premier. C'est des maladies de toute façon ou des troubles du comportement que j'ai rencontrés et que
c'est qui un
me
mélange
parlait
entre,
tout de suite.
Voilà, entre ce que vous avez connu et puis les psy avec qui vous avez travaillé.
Voilà.
On va refaire une pause musicale, on se retrouve tout de suite après.
Ok.
Merci.
Vous écoutez La Santé Mentale en Question avec Anne Voileau.
Nous sommes toujours avec Christine Derouin, donc ça va vite, hein, parce qu'on a parlé de plein de choses. Toujours dans la collection Pas de panique, c'est la vie, édition Oscar. Alors là, on a parlé, donc, pour les auditeurs qui viennent de prendre, sur la bipolarité, l'hyperactivité et la schizophrénie pour les adolescents, à mieux comprendre, qui est tout à fait lisible, bien, pour les adultes également. Je le dis parce que c'est important. Et alors, il y en a un autre en préparation.
Oui, il y en a un sur la dépression adolescente. Donc, c'est le même principe, hein, c'est une fiction.
Alors là, vous l'écrivez toute seule ou...
Celui-là, je l'écris toute seule. Fondée sur, sur mon expérience de rencontre d'adolescents en dépression, sur mon travail aussi de recherche sur la dépression. Et donc, c'est une sœur qui a une autre sœur qui entre en dépression après du harcèlement scolaire. Et qui fait une tentative de suicide.
C'est actuel, ça.
C'est complètement actuel, oui, oui. Et donc, il va sortir en novembre, et le texte psychiatrique est écrit par une jeune psychiatre qui s'appelle Laure Chandelier, qui travaille avec les adolescents, pédopsychiatre. Donc, voilà, il sort en novembre, et après, on va travailler sur l'autisme, et là, c'est un livre qui sera écrit à deux voix aussi, avec une auteure de chez Oscar également, qui s'appelle Sandrine Andrews, et on l'écrira toutes les deux. Et je suis pas sûre que le texte qui accompagnera sera écrit par un psychiatre. C'est encore en réflexion, parce qu'on va peut-être travailler sur les recherches qui sont faites sur l'autisme.
Oui, parce que ça évolue comme
ça. Ça évolue très, très vite, voilà.
Oui, et moi, donc, je me souviens qu'il y a 15 ans, il y avait beaucoup de syndromes qui étaient dits autistiques et qui ont été enlevés parce que c'était des maladies rares qui n'avaient rien à voir avec l'autisme. Il y avait des points communs dans l'apparence ou les symptômes, mais pas du tout. Donc c'est quand même
à prendre avec précaution, et puis l'envie de dire que ces recherches avancent très vite, parce que ça aussi c'est un sacré espoir, et ça pose par contre mille et une questions, parce que pour l'instant il y a mille et une directions, quoi,
de prise. Donc, avec des querelles de chapelle.
Avec des querelles de chapelle, dans lesquelles il va falloir essayer de ne pas entrer.
Voilà, faut surtout pas.
Surtout pas y rentrer, mais quand même, justement, c'est parce qu'il y a ces querelles de chapelle que ça avance aussi, quoi. Donc, Donc celui-là, il est prévu pour janvier, février.
C'est très passionnant, le novembre, vous m'avez dit.
Novembre, c'est la dépression.
Ah oui, oui, oui,
la dépression. Novembre, c'est la dépression, et voilà. Voilà, janvier, février, l'autisme.
Ah ben, vous n'arrêtez pas.
Non, j'arrête pas. Non,
alors,
non.
Les ateliers théâtre, on n'en a pas parlé du tout, on a parlé des ateliers d'écriture. Mais comment se passe un atelier théâtre? Un atelier d'écriture, ça se comprend facilement, et vous l'avez bien expliqué, mais l'atelier théâtre?
Alors, un atelier théâtre, ça se passe exactement de la même façon qu'un atelier théâtre pour qui que ce soit qui veuille faire du théâtre, on va dire, amateur. Enfin, c'est pas une formation professionnelle, mais du théâtre amateur, avec beaucoup d'exercices collectifs, parce que le collectif permet de se noyer dans la peur de l'autre, presque d'avoir peur ensemble.
Non, puis en général, le théâtre, c'est un
dialogue. Collectif, voilà,
ouais,
c'est un dialogue.
Enfin, à part, bon.
Et puis, des improvisations, des mises en scène de situations. Alors, peut-être avec évidemment plus de précautions dans la parole.
Peut-être, parce que, oui.
Voilà. Dans ce que je dis, moi, à la personne, que je dirais à quelqu'un dont je ne sais pas d'ailleurs qu'il est malade, mais qui est peut-être malade, donc voilà, peut-être plus de précautions, mais c'est vraiment le même fonctionnement, puisque mon cheval de bataille est de dire que je m'adresse à la personne,
bien
et non
sûr.
Pas au patient ou au malade, quoi. Donc, c'est sous forme d'une heure et demie d'atelier.
Et vous avez combien l'écriture, vous avez 5-6 personnes
L'écriture, un maximum, c'est la dizaine.
Oui,
parce qu'après, on voit, voilà, il y a toujours un vilain canard qu'on voit pas. Mais en théâtre, c'est pareil, c'est la dizaine, toujours pour le même vilain canard, quoi.
Oui, il y a quelqu'un qui a pas envie, donc
voilà,
il se cache derrière les autres, il est tranquille.
Voilà, qui va se cacher, et pour l'aider lui à sortir de sa cachette, il faut pas que le groupe soit trop important. Donc voilà, ça se passe comme ça. C'est vraiment, tout ça est au feeling et en fonction de...
Vous n'avez pas de groupe pareil, de toute façon,
non,
déjà.
Non, voilà. C'est vraiment, c'est une évidence. Hein. Donc c'est un petit peu en fonction de la rencontre et de ce qui se passe ou de ce qui se passe pas avec la personne.
Bah, d'ailleurs, on ressent, parce que sinon, ce serait quand même depuis le temps. Vous avez combien de temps que vous faites ces ateliers?
Ouh, ma petite dame. Des ateliers théâtre, ça fait... En psychiatrie, ça fait 18 ans, mais sinon, ça fait bien 25 ans, quelque chose comme ça. Il y a une époque où j'en ai fait.
Vous avez commencé jeune.
Merci beaucoup.
Oui, et l'écriture aussi, c'est à peu près pareil.
Voilà, l'écriture, j'ai commencé après le théâtre, en fait.
Ah oui, donc vous avez commencé.
Parce qu'au départ, j'étais metteur en scène, parce que le théâtre, c'est sympa, c'est la bande, c'est le groupe qui travaille, ouais. C'est la réunion au café après.
C'est génial.
Et voilà, ouais. Voilà. L'écriture, ça demande d'accepter d'être seule, donc voilà. Et les ateliers écriture, j'ai commencé après les ateliers théâtre, et d'ailleurs en me fondant bien sur ce que j'avais appris dans la gestion d'un groupe, on va dire,
oh bah oui.
En atelier théâtre, quoi, parce que c'est à peu près la même chose.
Ouais. Mmh. Gérer un groupe, c'est un peu, oui. Enfin, c'est même de la radio, je pense.
Voilà. Ouais. Même combat.
Même combat, c'est ça. Et c'est ce qui est passionnant d'ailleurs, parce que c'est toujours du partage.
Ouais.
Alors vous avez, j'ai l'impression que vous êtes très fidèle à votre éditeur. Oscar.
Oui, je suis une fille fidèle, oui.
Oui,
oui, oui, oui, oui, je suis très fidèle, oui, ça fait.
Parce que vous l'aimez bien, vous le défendez bien, alors.
Oui, oui, bah, c'est Françoise et Bertie Essel, oui, oui, je les défends bien. Il y a une bonne entente. Les thèmes qu'ils abordent m'intéressent, parce que bon, j'ai travaillé sur ces thèmes-là, mais j'ai travaillé sur le thème de la résistance aussi, donc sur des romans historiques pour adolescents. Et ça, c'était un thème qui m'intéressait aussi. C'est des éditeurs qui peuvent publier des livres, des romans adolescents qui sont de l'ordre du, on va dire, du roman psychologique ou du roman personnel, et puis qui peuvent aussi travailler sur la société, sur le monde comme il va ou comme il va pas, dans la même optique de livres.
Mais ils sont quand même, leur public, c'est quand même les adolescents.
Enfants aussi. Je parle d'ados parce que moi, j'écris jamais pour enfants, mais il y a enfants aussi. Oui, oui, oui.
Bah, voilà. Sur les thèmes-là, c'est mieux de viser l'adolescence.
Oui, 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 oui. Non, moi, l'enfance, je touche pas trop. Je sais pas écrire pour les enfants. J'ai pas une écriture qui correspond aux enfants, quoi. Donc, c'est pour ça que j'en parle pas, mais c'est aussi à l'éditeur jeunesse, donc c'est aussi l'enfance.
Enfance, adolescence. Non, c'est important parce que je sais pas s'il y en a autant que ça, qui soient comme ça, vraiment catégorie jeunesse, adolescence.
Il y en a. Mais Oscar marche bien, gagne en reconnaissance.
Faut dire que c'est bien présenté.
Ils sont beaux, hein.
Voilà, ils sont très beaux.
Ils sont très beaux.
Couverture couleur, c'est sympathique. Enfin, voilà. C'est une façon de présenter qu'on a envie de lire. C'est pas agressif sur des sujets quand même qui sont pas évidents.
Oui, tout à fait. Les couvertures sont très travaillées. C'est un éditeur qui a gagné sa reconnaissance auprès des centres de documentation aussi dans les collèges et lycées. Voilà.
Et alors, vous, vous avez écrit des romans, vous l'avez dit au début, des pièces de théâtre, mais est-ce que vous avez le temps, dans tout ce que vous faites là, d'écrire, revenir au théâtre roman?
Revenir au théâtre roman?
Oui, parce que là, vous êtes réécrire des romans ou du théâtre, parce que là, vous êtes dans des livres qui sont plus spécialisé.
C'est une bonne question,
mais
parce que ça prend bien du temps et la tête.
Oui, non, c'est pour ça que je me dis, a-t-elle le temps de se réfugier dans sa solitude et pour écrire?
Oui, alors j'ai un projet d'écriture d'un roman. Je m'y suis remise là depuis une quinzaine de jours. J'avais commencé, mais comme la dépression et ma dépression est terminée, donc j'ai un petit laps de temps avant d'entrer dans l'autisme et je travaille sur mon roman.
Dans l'autisme, vous ne pourrez plus rien faire.
Ça va être tragique. Non. Donc, j'essaye de garder mon écriture personnelle. De toute façon, moi, j'écris tous les jours. Je suis un peu une obsessionnelle de l'écriture. Donc, j'écris tous les jours et je travaille.
Donc, ça vous sert après?
Voilà.
Vous reprenez ça. Alors, pour je reviens à votre adolescence à vous. Qu'est-ce que vous avez dit à vos parents? Je veux écrire, faire du théâtre, ou c'est venu petit à petit? Parce qu'en général, quand vous dites ça à vos parents, ils sont pas très très contents quand même. Ils disent ouh là là.
Non, moi mon père était prof de maths et ma mère travaillait dans une mairie. C'était pas du tout une famille d'artistes.
Oui,
non, j'ai commencé par dire je veux faire du théâtre. Je pensais pas du tout à l'écriture.
Ah ouais, c'est pas mieux. Non.
Et ma mère m'a répondu à l'époque, ça sera le cours Simon, mais c'est trop cher, donc on peut pas te l'offrir ou rien. Voilà. Donc comme ça, ça avait résolu le problème.
C'est très bien, c'est une bonne réponse.
Alors, j'ai quitté mes parents assez jeunes pour des raisons familiales, difficile. Et du coup, dès que j'ai vécu toute seule, je me suis inscrite à un cours qui n'était pas le cours Simon, qui était à Vincennes, voilà. Et j'ai fait du théâtre. Après, j'ai invité mes parents à ma première pièce, mais c'est vrai que je ne leur avais pas dit que j'étais en train de la répéter.
Et alors, là, c'est ça, je pense à une adolescente qu'on est là où vous étiez.
Voilà,
à ce
moi j'avais 20 ans, là.
Oui, voilà.
Comme c'était une adaptation des frères Karamazov et que juste c'était une prise de tête pas possible, ils sont ressortis un peu sonnés. Mais bon, j'ai quand même eu la chance d'avoir notamment un père très très ouvert, et du coup, puisque c'était mon choix,
Ah, puis il a quand même, il vous a vu quand même sur scène, il a vu que
metteur en scène, donc il m'a pas vu sur scène.
Il vous a vu mettre
voilà,
ça.
Voilà, il a vu le résultat. Donc, et puis, il y avait pas, puisque j'avais décidé de faire ça, je me débrouillais, mais je faisais ça, il y avait pas une barrière.
C'est bien.
Tombée.
Oui, mais enfin, il a fallu quand même,
voilà, la deuxième pièce lui a plus. C'était du Boris Vian, c'était un petit peu plus enlevé. Ouais. Là, il a trouvé que ça commençait sérieusement à être intéressant, quoi.
Et alors, vous avez fait des cours de théâtre ou des cours de metteur en scène?
Des cours de théâtre, parce que des cours de metteur en scène, ça n'existe pas en France.
Justement.
Et du coup, j'ai demandé à mes profs qui montaient des spectacles d'être assistantes, c'est-à-dire de porter les cafés et d'assister.
De savoir comment ça se passait.
Voilà.
Comme quoi, il ne faut jamais renoncer. C'est ça que je voulais leur dire aux jeunes là, qui nous écoutent.
Non, non, il ne faut pas renoncer. C'était certainement, on va jouer les vieilles dames, plus facile à mon époque par rapport à l'intermittence et par rapport au budget et tout ça. Mais non, il ne faut jamais renoncer parce que sinon on s'embête dans la vie, quoi, si on renonce.
Puis je pense qu'il faut mieux avoir des difficultés que des regrets.
Voilà, c'est ça. Oui, donc non, faut pas renoncer. Et puis les parents, c'est qu'à un moment, après, on fait sa vie.
Non, puis après, ils sont contents quand même.
Ils sont contents,
ils sont fiers après.
Oui, mon père est super fier, que ça soit du théâtre ou de l'écriture.
Oui, voilà.
Même si je suis un animal bizarre, voilà, mais il est très fier.
Très fier de son animal bizarre.
Il est très fier de son animal bizarre.
On va se quitter sur ce moment. C'était pour donner un petit message quand même qui est important. Merci beaucoup Christine. Puis vous reviendrez nous voir quand vous aurez sorti les deux prochains numéros et vous nous parlerez des deux prochains livres.
Pas de problème.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci. Au revoir.